Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'ONU réclame la réouverture immédiate des points de passage de l'aide humanitaire coupée par Israël. Un assaut généralisé de Rafah serait une catastrophe humaine, déclare Antonio Guterres. Nous ferons le point sur la situation. Les plus grandes entreprises d'Allemagne entrent en campagne contre l'extrême droite. Des PME et des start-up ont aussi rejoint cette alliance qui prône l'unité européenne pour la prospérité, la croissance et l'emploi. Nous irons à Berlin. Le PDG de la SNCF défend son bilan. Auditionné par le Sénat, Jean-Pierre Farandou assure que l'accord sur les fins de carrière qu'il a signé est raisonnable, équilibré et utile. Nous l'entendrons. Et puis nous ferons un peu d'histoire. Le Vietnam célébrait aujourd'hui les 70 ans de la victoire de Dien Bien Phu contre les troupes françaises. Nous tenterons de recontextualiser cette bataille qui a marqué la fin de la domination française en Indochine avec Mathieu Laurent. L'offensive sur Rafah, annoncée de longue date par Israël, a donc bien eu lieu. Après une intensification des bombardements la nuit dernière, l'armée israélienne s'est emparée au petit matin du poste frontière qui relie l'enclave palestinienne et l'Égypte. Elle ne parle que d'une opération limitée, mais pour la population de la bande de Gaza qui voulait croire à la conclusion d'une trêve, le choc a été rude, Omar Waman.
Tout avait commencé hier soir par des scènes de joie et des tirs en l'air des habitants de la bande de Gaza, soulagés après la réponse positive du Hamas sur la proposition de trêve soumise par les médiateurs du Qatar et de l'Égypte. Trêve rejetée par Israël qui a douché les espoirs de la population. Mohamed, habitant de Rafah, joint par Thibault Lefebvre.
Une vague d'espoir a envahi nos rues. On s'est dit, c'est Israël qui est à l'origine de cette dernière version de l'accord de trêve. Donc il ne manquait plus que la validation du Hamas. Le Hamas a accepté et au lieu d'un arrêt des combats, il y a une intensification des bombardements à l'est de Rafah, des frappes aléatoires et ininterrompues.
Et à ce stade, l'opération militaire israélienne se concentre sur la partie est de Rafah, mais les habitants comme Asma, jointe par Valérie Krova, redoutent que l'offensive soit élargie aux autres quartiers de la ville.
S'ils vont faire une opération, ce sera une catastrophe. Parce que les choses ici à Rafah vont être en pire. Parce qu'ici, il y a seulement des maisons tout proches. Moi, je pense que l'Égypte ne va pas accepter que les choses vont être pires à Rafah à côté des frontières.
Car l'Égypte craint un effondrement de la situation qui provoquerait un afflux de réfugiés gazaouis sur son sol.
Omar Waman, Gaza était déjà coupée du monde. La voilà de nouveau privée d'aide humanitaire. Kerem Shalom, principal point de passage de l'aide vers la bande de Gaza, avait été fermé dimanche après des tirs de roquettes. Et aujourd'hui, l'armée israélienne a pris le contrôle de celui de Rafah avec des conséquences déjà désastreuses, Jérémy Lange.
Aucun employé des Nations Unies n'a désormais accès au point de passage de Rafah. À la place, les tanks de l'armée israélienne quadrillent la zone, comme ils quadrillent Kerem Shalom plus à l'est. Ça veut dire que plus rien ne rentre au sud de Gaza, ni eau, ni nourriture, ni médicaments, ni essence, explique Jens Lark. C'est le porte-parole des affaires humanitaires de l'ONU. Il resterait un jour de réserve de fuel seulement.
Le checkpoint de Rafah est le seul endroit où le fuel rentre à Gaza. Le fuel qui sert aux camions, aux générateurs, aux appareils de communication. Si on empêche la livraison de carburant pendant plusieurs jours, alors on peut dire que ce serait une manière très efficace d'enterrer les opérations d'aide humanitaire.
L'armée israélienne a demandé à plus de 100 000 civils d'évacuer plus au nord, vers la zone côtière d'Al-Mawassi. Un enchevêtrement de tentes sans vraies infrastructures et sans sécurité, rappelle James Elder de l'UNICEF.
Il y a quelques semaines, l'UNICEF a raconté ce qui est arrivé à un petit garçon qui s'appelait Mustapha. Il était sorti pour chercher de la nourriture pour sa famille et il a été tué d'une balle dans la tête à Al-Mawassi, la soi-disant zone sûre vers laquelle on demande maintenant aux enfants et aux familles de se rendre.
Malgré le danger, la réalité c'est que beaucoup de civils fuient Rafah sans vraiment savoir où aller, y compris ceux qui ne sont pas concernés ou en tout cas pas encore par l'ordre d'évacuation de l'armée israélienne.
Jérémy Lange à Genève pour RFI et France Culture. Le chef de l'ONU demande donc la réouverture immédiate des points de passage de l'aide humanitaire. Pour Antonio Guterres, un assaut de Rafah serait une erreur stratégique, un désastre politique et un cauchemar humanitaire. Le Forum des Familles, principale association israélienne de proches d'otages retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, appelle les pays dont les ressortissants figurent parmi les otages à soutenir un accord de trêve avec le Hamas. Et par ailleurs, en France, des étudiants de Sciences Po continuent de manifester leur soutien camp palestinien. Les forces de l'ordre sont de nouveau intervenues à deux reprises aujourd'hui rue Saint-Guillaume à Paris pour disperser des rassemblements. Une trentaine de manifestants ont été évacués du site de Sciences Po à Reims et au Havre, les examens ont dû être annulés en raison d'un blocage. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a peut-être échappé à une nouvelle tentative d'attentat. Les services de sécurité ukrainiens annoncent l'arrestation de deux officiers. Ces deux Ukrainiens sont soupçonnés d'avoir préparé l'assassinat du président et ceux d'autres responsables du pays sur ordre de Moscou, Virginie Pironon.
Les autorités ukrainiennes disent avoir démantelé tout un réseau du FSB, les services de sécurité russes opérant sur leur sol. Un réseau qui aurait été supervisé depuis Moscou et qui visait à recruter parmi les proches de Volodymyr Zelensky. Artem Dertyarenko, porte-parole du SBU, les services de sécurité ukrainiens.
L'une des tâches les plus importantes de ce réseau de renseignement était de trouver des militaires proches des services de sécurité afin de prendre le chef de l'État en otage et de le tuer.
Deux suspects ont été arrêtés, deux colonels du service d'État ukrainien assurant la sécurité de plusieurs responsables militaires. Ils sont désormais accusés de haute trahison. Selon les services de sécurité ukrainiens, leurs recrues auraient été chargées de surveiller les mouvements du président, mais pas seulement. D'autres hauts responsables étaient également ciblés, parmi eux le chef du renseignement militaire Kirillo Budanov ou encore le chef des services de sécurité Vassil Malyuk. Au total, depuis le début de la guerre, en février 2022, le président Volodymyr Zelensky aurait été la cible de plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat. Il admet volontiers en public ne plus les compter.
Virginie Pironon, correspondante de France Culture à Kiev. Mobilisation inédite contre l'extrême droite en Allemagne, cette fois à l'initiative du monde économique. Une trentaine d'entreprises, parmi lesquelles des poids lourds de l'industrie, annoncent leur entrée en campagne contre l'AFD. Cette alliance voit le jour alors que le parti bénéficie de bons sondages à un peu plus d'un mois des élections européennes. Le patronat s'inquiète de voir l'image de l'Allemagne écornée et redoute aussi les conséquences concrètes d'une victoire de l'extrême droite, Sébastien Baer.
Dans un pays qui souffre cruellement d'un manque de main-d'œuvre, la progression de l'extrême droite ne représente évidemment pas la meilleure publicité. En Allemagne, 1 700 000 postes sont vacants, 40% des emplois ne trouvent pas preneur. Avec la montée de l'AFD, un chef d'entreprise sur deux redoute d'avoir de plus en plus de mal à recruter de la main-d'œuvre étrangère, notamment dans les Länder de l'Est où l'extrême droite dépasse parfois les 30% d'intention de vote. Au travers de cette tribune, les patrons lancent donc un appel à la tolérance. Ils sont 33 à l'avoir signé, BASF, BMW, la Deutsche Bank, Siemens, Bosch, la Deutsche Bahn ou encore Blacklane, une start-up berlinoise dont le fondateur Jens Woltorf propose les services de chauffeur professionnel.
Notre succès repose sur la diversité des origines, des expériences et des points de vue de nos 300 employés originaires de 54 pays. Aujourd'hui, les réussites entrepreneuriales sont impossibles sans une société cosmopolite, tolérante et diversifiée où chacun se sent en sécurité et accueilli. Ces valeurs fondamentales ne sont pas négociables et sont essentielles au succès des entreprises nouvellement créées.
Dans la tribune baptisée « We stand for values », debout pour nos valeurs, les chefs d'entreprise mettent en garde contre l'exclusion, l'extrémisme et le populisme qui menacent l'attractivité de l'Allemagne. Une attractivité fragilisée encore par les récents scandales qui impliquent l'extrême droite, entre soupçons d'espionnage au profit de la Chine et projets d'expulsion des étrangers.
Sébastien Baer à Berlin. La liste Reconquête menée par Marion Maréchal se rapproche dangereusement dans les sondages des 5% nécessaires pour obtenir des eurodéputés et les désaccords stratégiques entre Éric Zemmour et Marion Maréchal n'arrangent rien. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
C'est dans ce contexte que Reconquête a dévoilé ce matin les noms de ses 81 candidats pour les élections européennes.
Et l'atmosphère était morose au siège de Reconquête ce matin, bien loin de l'euphorie du début de la campagne présidentielle de 2022. Marion Maréchal dresse sans conviction apparente un panorama de sa liste. Moyenne d'âge jeune, 41 ans, les 13 régions métropolitaines représentées, de nombreux professeurs agrégés, chefs d'entreprise, avocats et juristes, des policiers et médecins, mais aussi une vingtaine d'élus.
L'enjeu dans ces élections est bien d'envoyer un maximum d'élus au Parlement européen pour battre Emmanuel Macron au Parlement européen, remplacer l'actuelle majorité. Ce renversement de majorité pourra se faire à quelques dizaines de députés près. Et c'est en cela, évidemment, que la présence de Reconquête dans ces élections est absolument déterminante, puisque nous sommes les seuls à avoir à la fois la volonté de changer les choses, mais aussi la capacité de changer les choses, qui nous distingue en particulier, évidemment, de nos deux concurrents de droite.
Nos deux concurrents de droite, comprenez la liste LR de François-Xavier Bellamy et celle du RN de Jordan Bardella, concurrents et pas adversaire, pas d'attaque frontale contre le Rassemblement national. Et c'est bien le désaccord désormais affiché au grand jour entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Un désaccord de stratégie, pas de fond. Les deux sont d'accord dans leur combat radical contre l'immigration, contre l'islam, contre le prétendu lobby LGBT. Ils sont tous deux libéraux économiquement et conservateurs sociétalement. Mais ils ne s'entendent pas sur la stratégie. Épargner le RN en vue de futurs accords ou le matraquer pour tenter de récupérer quelques miettes. La présence de la compagne d'Éric Zemmour, Sarah Knafou, en troisième position, affaiblit Marion Maréchal, qui s'est contentée, après son discours ce matin, d'une simple photo avec ses colistiers avant de quitter les lieux.
Antoine Maret, l'exécutif n'a pas apprécié l'accord sur les fins de carrière des cheminots. Il a clairement fait comprendre en indiquant que le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ne serait pas reconduit à la tête du groupe. Il partira à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il se trouve que Jean-Pierre Farandou était auditionné aujourd'hui par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Et à cette occasion, bien sûr, il a défendu son bilan.
Oui, Aurélie, après la décision de l'exécutif de ne pas renouveler son mandat, Jean-Pierre Farandou n'a pas hésité à tacler le gouvernement en indiquant que l'accord sur les retraites qu'il vient de signer avec les syndicats était bien équilibré et qu'il avait bien prévenu en amont le gouvernement avec un coût raisonnable de 35 millions d'euros par an qui seront financés directement par la SNCF, un accord qu'il justifie également par la pénibilité au travail à laquelle sont confrontés plus de la moitié de ses salariés, soit 91 000 cheminots. Jean-Pierre Farandou.
Les pouvoirs publics, à la sortie de la réforme des retraites l'an dernier, ont demandé aux branches professionnelles et aux entreprises de travailler sur le volet pénibilité dans le contexte de carrière allongé par la loi. Nous avons donc proposé aux organisations syndicales, au printemps 2023, sous la demande des pouvoirs publics, je le redis, de revoir ce vieil accord, tout en tenant compte, bien évidemment, c'est l'objectif principal, de la pénibilité des métiers exercés à la SNCF. 91 000 cheminots tiennent un emploi pénible dans les ateliers, dans les postes d'aiguillage, de gestion de l'énergie électrique, dans les dépôts, dans les gares, dans les trains, sur les voies. Ils travaillent de nuit, en 3-8. Faire ça pendant 30 ans, on peut admettre que ça peut entraîner certaines usures. Il n'y a pas que nous, bien sûr, mais il y a beaucoup nous.
Le PDG de la SNCF qui, devant les sénateurs, qui lui ont apporté tout leur soutien, en n'hésitant pas à parler d'une décision, je cite, « indécente », a également tenu à justifier son bilan durant ces 4 ans et demi, en rappelant qu'en arrivant à la tête de la SNCF, en novembre 2019, les comptes étaient déficitaires, alors que les derniers résultats, publiés en février 2023, sont dans le vert, avec un bénéfice, Aurélie, de 1,3 milliard d'euros.
Hakim Kasmi, Emmanuel Macron a emmené aujourd'hui le président chinois découvrir un lieu de son enfance, le col du Tourmalet dans les Pyrénées. L'occasion d'échanges moins protocolaires avant le départ de Xi Jinping pour la Serbie. L'occasion peut-être aussi de vanter les atouts touristiques de la France. Car le gouvernement présentait aujourd'hui ses mesures pour soutenir le secteur du tourisme en cette année olympique. On attend cet été 16 millions de visiteurs étrangers, dont bien sûr des touristes chinois. Même si malgré la fin de la pandémie de Covid, il semble bouder la France. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Aurélie.
Il s'agit donc de faire revenir chez nous les groupes de touristes chinois, mais aussi le tourisme d'affaires, bien sûr.
Oui, pour favoriser les échanges commerciaux, la France veut faciliter la délivrance de visas de court séjour à entrée multiple. En clair, la possibilité pour des hommes, des femmes d'affaires chinois de faire des allers-retours pour des rendez-vous, pour des salons, sans avoir à redemander un visa à chaque fois. Ce public-là doit être prioritaire dans les consulats de France en Chine. C'est la consigne donnée par Matignon l'an dernier. Ils étaient 60 000 à demander un visa pour venir dans l'Hexagone pour affaires. Pour le tourisme à proprement parler, les voyages organisés en groupe, ça représentait environ 120 000 visas en 2023 contre 2 millions en 2019. Il s'agit donc de faire revenir ces touristes-là qui ont déserté notre pays avec la pandémie du Covid, bien sûr, mais aussi depuis l'an dernier avec une série d'attaques, de vols avec violence perpétrés contre des groupes de touristes chinois en France et qui ont durablement écorné l'image de notre pays en Chine. L'objectif, c'est donc bien de retrouver à terme les niveaux d'affluence d'avant Covid, sachant que les touristes chinois, ceux qui ont les moyens en tout cas de se payer le voyage en France, sont le public cible de l'industrie du luxe français qui reste une locomotive pour notre économie à l'international. Donc la France s'engage à réduire les délais de traitement des demandes de visa et en renforçant les effectifs et le nombre des centres centres consulaires français sur le territoire chinois. Enfin, Paris promet plus de vols en provenance de Chine dès la période des Jeux Olympiques. Des créneaux aériens supplémentaires vont être accordés à des compagnies chinoises. Preuve que pour nos décideurs, l'heure n'est pas à la réduction du très polluant transport aérien international, mais bien au rattrapage économique de l'avant-Covid.
Camille Magnard, pour la première fois en 70 ans, des anciens combattants et des membres du gouvernement français, dont le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sont allés participer au Vietnam à la cérémonie commémorant la fin de la bataille de Dien Bien Phu. Il y avait eu 57 jours de combats acharnés et près de 3000 Français et 10 000 Vietnamiens sont morts au cours de cette bataille qui s'est achevée le 7 mai 1954 en pleine conférence de Genève. On peut y voir le début d'une mémoire partagée autour de l'issue de cette confrontation entre les troupes du Viet Minh et les effectifs français en Indochine. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir.
Mais cette lecture fait fi d'un contexte international particulier à un moment décisif de la guerre froide.
En effet, depuis la victoire des communistes en Chine en 1949 et surtout de la fin de la guerre de Corée en 1953, c'est l'ensemble de l'Asie orientale qui est l'enjeu d'une guerre globale contre le communisme. Il n'y a plus que la France qui se bat et les États-Unis aimeraient que Paris tienne ses positions. Mais Paris ne veut pas négocier avec Ho Chi Minh et donc on imagine une grande négociation internationale, la conférence de Genève qui s'ouvre en pleine bataille de Dien Bien Phu le 26 avril 1954. Pierre Grosser est historien à Sciences Po.
Il y avait un enjeu mondial et c'est une vraie question. Est-ce qu'on est passé près d'une guerre mondiale, en tout cas une guerre nucléaire, avec cette crise de Dien Bien Phu? Donc derrière ce qu'on nous représente très souvent comme étant une bataille, je veux dire, terrestre, il y avait un enjeu absolument considérable. Et une des raisons pour lesquelles les Chinois, appuyés par les Soviétiques, ont dit à Ho Chi Minh pour aller trop vite, parce qu'ils l'ont dit directement à Ho Chi Minh, bon, maintenant, on arrête et on signe, on essaye de trouver un accord avec des Français qui, on le voit bien, veulent sortir de ce bourbier, c'est la crainte d'une intervention beaucoup plus forte des États-Unis et d'avoir finalement, après avoir mis fin à la guerre en Corée, une reprise de la guerre entre les États-Unis et la Chine au Vietnam.
L'essentiel se passe donc à Genève et dans l'arène politique française. Pierre Grosser.
Pour savoir si le corps retranché va capituler ou va essayer de lutter jusqu'au bout, ça a été vraiment un débat politique en France extrêmement tendu, parce que c'est la crédibilité de la France comme grande puissance qui était en train de se jouer. L'Indochine, c'était la carte de visite de la puissance française mondiale. Il faut toujours penser qu'on se battait en Indochine, c'est ça qui est assez fou, on sacrifiait des soldats en Indochine aussi pour la sécurité de l'Europe. Si on montrait aux Américains qu'on se battait correctement, on freinait le communisme en Asie, eh bien, on serait crédible pour qu'ils viennent se battre en Europe pour nous sauver en cas d'invasion soviétique.
Les accords de Genève, signés le 20 juillet 1954, instaurent une partition de part et d'autre du 17e parallèle, ce qui ne signifie pas pour autant la fin de la présence française au Vietnam, au sud comme au nord d'ailleurs, ce à quoi va travailler Pierre Mendès France, conduit à la tête du Conseil, à la suite de la défaite de Dien Bien Phu.
Après cette séquence d'histoire, nous revenons en 2024 et en France où discriminations et violences sexistes persistent dans le milieu médical. Selon une enquête flash initiée par le syndicat Jeunes Médecins, 78% des femmes disent avoir été victimes d'une situation de discrimination ou de harcèlement lié à leur genre durant leurs études médicales. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Il semble bien difficile, malgré une certaine prise de conscience, de faire bouger les choses.
Oui, si 8 femmes sur 10 se disent victimes de violences sexistes ou sexuelles, 5% des faits à peine sont signalées. À l'intérieur des hôpitaux, relève la pédiatre Anna Boctor, qui est aussi vice-présidente du syndicat Jeunes Médecins, cela s'explique notamment parce que la hiérarchie est bicéphale et s'entraide.
Le pouvoir médical est un médecin qui l'a, le chef de service en l'occurrence, et le pouvoir administratif, c'est le directeur de l'hôpital. Et les deux travaillent entre guillemets ensemble pour la direction de l'hôpital, et vous savez que souvent, il peut y avoir aussi des collusions entre les deux. Et c'est là que c'est problématique, parce que ces mêmes personnes qui possèdent tous les pouvoirs et qui peuvent, eux, déclencher une enquête administrative, une sanction, ne le font pas, parce qu'il y a de l'entre-soi et qu'ils se protègent entre eux.
Les violences sont donc subies par les agents administratifs, infirmières, aides-soignantes et par les médecins femmes. Mais comment le prouver? Si les sondages et les enquêtes des syndicats et autres associations sont récurrents, ils, elles, ne sont pas exhaustifs. Voilà pourquoi Jeunes Médecins a saisi la Défenseure des droits et espéré réaliser une très large enquête sur les discriminations avant de se heurter aux institutions médicales.
Nous avons terminé le questionnaire avec le défenseur des droits. On était prêt à l'envoyer à tous les médecins parce qu'on voulait une étude exhaustive et extrêmement puissante et impactante. Et nous avons demandé alors des médecins de nous mettre à disposition la base mail exhaustive de tous les médecins. Ils ont refusé en nous disant que c'était une problématique de réglementation RGPD. Même quand le défenseur des droits les a rassurés sur ce point-là, ils n'ont pas voulu mettre à disposition la base mail. Donc nous sommes bloqués depuis plus de 6 mois pour cette enquête qui serait totalement inédite.
La docteure Anna Boctor ajoute que la DGS, la Direction Générale de la Santé, qui dispose aussi du fichier d'adresse des médecins, n'a pas non plus donné suite.
Le temps sera gris demain matin sur une bonne moitié nord et des averses seront possibles dans l'est, mais la tendance générale sera à l'amélioration et le soleil sera généreux sur le pourtour méditerranéen. Il fera 7 à 14 degrés au petit matin, 13 à 24 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.